Radio Grand Ciel présente Histoire d'en savoir plus, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blum. Aujourd'hui, je reçois une spécialiste des légumes. À une époque où l'on propose navets, salades ou concombres aux enfants, j'ai voulu savoir comment on se spécialisait dans l'art de la cuisine des légumes. C'est pourquoi je remercie Fantine Olivier d'avoir accepté mon invitation. Fantine Olivier, bonjour.
Bonjour Christiane Blanc.
Alors c'est au cours d'un cocktail chez des amis que j'ai vu ces produits absolument, je dirais presque magiques, puisque les navets, les carottes ressemblaient à des coquilles Saint-Jacques. Tout cela était joli, bon. Alors j'aimerais bien savoir comment a débuté votre histoire. Comment êtes-vous arrivée à la cuisine?
Par des chemins de traverse. À savoir, moi j'ai fait des études universitaires, donc j'ai notamment un diplôme en sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Lyon.
Mais vous aviez passé quel bac?
Bac économique et social, oui. Avec une spécialité mathématiques et une option classe européenne allemand.
Oui.
Donc tout me destinait plutôt aux sciences politiques, ce que j'ai fait par choix à Lyon, en me spécialisant sur l'économie du développement. Et les problématiques liées à l'émergence des pays dits en voie de développement, la souveraineté alimentaire, le commerce équitable, etc. Enfin, j'ai eu l'occasion de faire un stage au Pérou sur ces thématiques-là.
Alors, comment ça s'est passé? Vous aviez demandé à partir au Pérou?
Alors, c'était dans le cadre de mes études où j'avais l'opportunité soit de partir 6 mois en stage, soit de partir 6 mois en université à l'étranger. Moi, j'avais préféré me confronter à la réalité et partir en stage directement.
Alors, c'était un stage de quoi à l'origine?
Alors, c'était un stage où on choisissait la thématique sur laquelle on voulait travailler. C'était un stage de 6 mois. On avait un rapport de stage à faire au final. On était suivis par 2 professeurs. Donc, moi, j'en avais un d'économie du développement, principalement, qui suivait mon travail.
Oui.
J'avais été recrutée pour travailler, accompagner un groupe de femmes quechua donc, qui travaillaient sur la valorisation des plantes médicinales, à savoir qu'elles avaient entamé avec une association, une ONG britannique, tout un travail de collecte et de construire un répertoire en fait, des plantes médicinales.
Oui.
Et après, avec les personnes plus âgées des communautés, tout un travail pour retrouver les pratiques socio-culturelles attachées à ces plantes médicinales, à savoir la transformation, la conservation et quels étaient les usages et les propriétés thérapeutiques.
Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous donner des exemples de plantes médicinales que vous avez utilisées, justement, au Pérou?
Et qu'on retrouve aujourd'hui, qu'on retrouve en France,
voilà.
Oui, bien sûr, vous avez le souci, qui s'appelle calendula en espagnol et ochucaspa en quechua, alors je le prononce très mal.
Et quelles sont les vertus?
Celle-là, c'est plus pour les maux de tête, principalement en tisane. Voilà, les propriétés qui étaient mises en avant, c'était vraiment pour tous les maux bénins. Il ne s'agissait pas de soigner des maladies graves, mais ce qu'on appelle le soroche là-bas dans les Andes. Donc c'est ce mal de l'altitude, en fait, qui peut prendre certaines personnes avec des maux de tête, des maux de
ventre. Et qui est soigné par quoi?
Par un mélange, du coup, des plantes en association, en fonction aussi des symptômes.
À savoir?
Ça, je ne pourrais pas vous dire, je n'ai pas retenu les recettes.
Non, ah oui, vous ne vous êtes pas dit, peut-être je prends ces recettes, ça pourra toujours me servir pour les utiliser en France, puisque maintenant, la cuisine des plantes est très à la mode. Moi, j'adore me servir de la bourrache, enfin. Et je trouve que non seulement ça apporte quelque chose sur le plan de la santé, mais encore, c'est très joli dans les plats.
Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je n'avais pas du tout de projet de cuisine. Enfin, ça ne me traversait absolument pas l'esprit. Et j'étais vraiment plus se concentrer sur les problématiques de développement endémique par les populations autochtones. Donc il y avait des agronomes qui travaillaient par exemple avec les hommes, plutôt les paysans, sur la réintroduction de pommes de terre natives qui résistent mieux à toutes les conditions climatiques quand elles sont cultivées en mélange, etc. Et c'est vrai que je me suis surtout concentrée sur cet aspect-là des choses, qui avaient des pratiques qui pouvaient permettre à des peuples autochtones de se suffire en alimentation, avec une alimentation vraiment liée à leur territoire et à leur terroir.
Et c'était une alimentation essentiellement de légumes?
Oui, beaucoup de pommes de terre. Les communautés avec lesquelles je travaillais ont été rassemblées au sein du parc de la Papa. Donc la Papa, c'est la pomme de terre là-bas. Vous avez à Lima le centre international de la Papa. 900 variétés de pommes de terre étaient cultivées sur les 6 communautés avec lesquelles on travaillait. Certaines étaient consommées.
Vous êtes imbattable sur la pomme de terre.
En tout cas, j'en ai goûté beaucoup. Des bleus, des roses à l'intérieur, à l'extérieur, cuites dans la terre. C'est vrai qu'on les mangeait matin, midi et soir. Il y avait les chugnos aussi, qui sont des pommes de terre déshydratées par le froid. Et donc qui permettent de les conserver jusqu'à 2 ans et ensuite
faut les réhydrater. Il y a des protéines dans les pommes de terre.
Oui, ça alors voilà, avec des taux de protéines plus c'est ou moins riches. Oui. La quinoa aussi est cultivée, donc elle permet d'apporter aussi beaucoup de nutriments.
Donc on en a maintenant en France.
Voilà, c'est ça. Bah, même dans le Perche, hein, à Senonches, on a un cultivateur de quinoa. Et c'est vrai que voilà, beaucoup de légumes, mais surtout de la pomme de terre, du maïs, de la quinoa. Et après, en ville, on mangeait plus de fruits et la viande, c'était vraiment pour les jours de fête. Quoi.
Ah oui. Et sur le plan de votre activité, vous étiez en pleine forme en ne mangeant que des pommes de terre ?
Oh oui. Et des légumes. Enfin, oui, c'est important.
Et d'autres légumes.
Oui. Après, moi, j'habitais à Cusco et j'allais dans les communautés quechua par séquence de 3, 4, 5 jours. Mais non, enfin, c'était pas en continu. Donc, du coup, j'avais aussi une alimentation en ville qui s'approchait de l'alimentation européenne.
Alors, donc, vous apprenez à connaître les pommes de terre au cours de ce voyage au Pérou. Qu'est-ce que ça vous apporte encore ?
D'un point de vue tout à fait personnel, ça m'a vraiment encouragée à réfléchir à ma place dans le monde, mon rôle dans la société, sans vouloir me mettre de mission sur les épaules, mais de dire, voilà, moi j'ai la chance d'être née en France. Quand on part dans un pays où notre origine se voit sur son visage, eh ben, on nous le fait remarquer. Et donc là-bas, j'étais une occidentale, donc je représentais un fort pouvoir d'achat, une facilité de déplacement, etc., ce qui est une réalité. Et c'est vrai que j'ai eu peur, si je continuais à travailler dans ce qu'on appelle l'économie du développement, j'avais peur d'être un peu trop du côté des donneurs de leçons. Et je me suis dit, non, il est important que je me forme, et si jamais je veux repartir, que j'ai des vraies compétences plutôt que...
Un vrai métier.
Et un vrai métier entre les mains.
Donc vous revenez en France.
Donc je reviens en France, je fais ma dernière année d'études à Sciences Po Lyon. Donc je suis rentrée en août de mon séjour au Pérou, en septembre je reprenais les cours. Et dès la première semaine, je me suis dit que je ne pourrais pas passer l'année seulement en étant assise sur les bancs de l'amphithéâtre. Du coup, j'ai contacté le réseau Alliance, paysans écologistes consommateurs, donc Alliance PEC Rhône-Alpes, qui, à l'époque, donc, a été initiateur du mouvement des AMAP en Rhône-Alpes. Donc,
alors, AMAP,
c'est Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Enfin, ce sont, des associations de consommateurs qui se regroupent, se réunissent pour mettre en place un contrat avec des producteurs en disant, voilà, nous, on vous préfinance votre production. Donc, dites-nous combien ça va vous coûter de produire. Et le fruit de votre production, on se le partagera. Ce qui permet aux producteurs d'avoir une visibilité sur ce qu'ils vont pouvoir gagner comme revenu aussi, que toute leur production va être écoulée, et que en cas de coup dur, comme il y en a énormément dans l'agriculture, avec trop de pluie ou pas assez de pluie, trop de soleil, pas assez de soleil, voilà, c'est quand même un métier qu'aux premières portes, premières victimes aussi du changement climatique. Ça leur permet d'avoir une visibilité sur leur avenir et sur la viabilité de leur activité. Et donc j'ai contacté le coordinateur de l'association qui était seul à travailler à l'époque, on était en 2007. La première AMAP à Lyon avait été créée en 2004. C'était un mouvement tout récent. Il était content d'avoir de la main-d'œuvre stagiaire en plus. Et moi, ça m'a permis, après une expérience riche humainement, où j'avais beaucoup d'autonomie là-bas au Pérou, où j'ai pu faire des recherches ou des travaux, des études qui m'intéressaient et qui étaient bénéfiques pour l'association, mais pour lesquelles j'étais moi-même décisionnaire. Là, ça m'a permis de remettre, entre guillemets, les mains dans la pâte, dans la terre, et puis de l'accompagner sur la création d'AMAP, la rencontre de nouveaux producteurs, le fait de faire connaître ce concept-là.
Alors là, c'était pareil, des légumes ?
Oui, principalement des légumes, parce que c'est vrai que les AMAP se mettent en place principalement avec des légumes, mais on voit d'autres types des partenariats du même type qui se mettent en place pour les produits laitiers, la viande, le pain.
Et j'en reviens aux légumes. Est-ce que vous avez eu l'idée de leur dire, eh bien, les pommes de terre que j'ai vues au Pérou, c'était formidable, elles avaient beaucoup de protéines, on peut peut-être en faire. Est-ce que vous avez voulu...
Alors, toutes les variétés de pommes de terre ne sont pas adaptées à tous les milieux, tous les écosystèmes. Oui. Donc c'est vrai que... Non, j'ai pas de formation d'agronome, etc. Oui. Moi, c'est vraiment plus une entrée économique et sociale. Oui. Et donc du coup, je ne suis pas allée m'aventurer à donner des conseils en agronomie. Néanmoins, c'est vrai que les paysans avec lesquels on travaillait utilisaient déjà beaucoup des variétés anciennes. Enfin, ce qu'on appelle les variétés anciennes, ce n'est pas seulement les légumes oubliés. C'est aussi sur des carottes, qui sont pas un légume qui est loin d'être oublié, d'avoir des variétés plus rustiques, plus autonomes, qui ont besoin de moins d'eau, etc. Pareil pour les pommes de terre, etc. Et donc chaque paysan cultive plusieurs variétés pour un même type de légumes.
Donc vous étudiez ça pendant combien de temps ?
Alors moi, c'était juste le temps de ma dernière année de Sciences Po, donc c'était sur l'année scolaire 2006-2007. Donc je fais ça en parallèle de ma dernière année où... Donc j'ai des cours, j'ai un mémoire de fin d'études à rendre que je fais sur le mouvement des AMAP, justement, et sur l'impact possible en termes de développement rural.
Et alors, vous, à ce moment-là, vous vous destinez à quoi ? Est-ce que vous allez rentrer normalement dans la vie active ?
Oui, alors j'avais une porte de sortie, parce que j'ai fait un Master 2, histoire de reculer un peu l'échéance. Ouais. Parce qu'à l'époque, les instituts d'études politiques, en tout cas celui de Lyon, nous formaient en 4 ans, alors que la réforme européenne était déjà passée. Et on n'est que 3 promotions à avoir fait ça en 4 ans. Maintenant, c'est 5 ans, ce qui est plus cohérent. Mais voilà, moi, pour être dans les clous, entre guillemets, j'ai fait un master pour atteindre le niveau bac plus 5, parce que je savais que ce serait celui-là qui serait reconnu. Mais je me destinais à l'animation territoriale, le développement rural, agricole, avec une entrée vraiment sur les circuits courts alimentaires. Voilà, tout ce qui était économie locale, en fait.
Oui, c'est ce qui vous plaisait.
Tout à fait.
Les études, ce voyage au Pérou, tout ça vous destinait au milieu agricole, légumes, etc.
Tout à fait. Et c'est vrai que c'est en allant loin, en allant dans un autre pays, en me confrontant à cette réalité-là, que je me suis rendu compte en revenant que voilà, il y avait des choses à faire au niveau local. Il ne s'agit pas de vivre en autarcie ni rien du tout, mais de se dire que voilà, regardons déjà à notre porte, voir ce qu'on peut faire pour améliorer les choses.
Alors, on arrive peut-être au but maintenant.
Ah, il y a quelques détours encore.
Il y a encore quelques détours, alors allons-y, prenons ces détours.
Je vais faire plus vite, mais donc j'ai fait mon master en développement agricole durable, qui était sur 3 piliers. Un pilier sur la souveraineté alimentaire, là encore très orienté pays du Sud, mais 2 autres piliers qui m'avaient particulièrement convaincu de postuler à ce master-là sur l'agronomie, pour avoir enfin quelques bases en agronomie, parce que c'est quelque chose qui me manquait vraiment fortement. Et puis un troisième volet, plus sur la nutrition et l'équilibre alimentaire.
Donc comment ça arrivait ?
Exactement, ça vient, et donc c'est 6 mois de cours, et je trouve un stage au sein d'un parc naturel régional, non pas celui du Perche, mais celui qui s'appelle Loire-Anjou-Touraine.
Déjà vous vous rapprochez du Perche.
Voilà, entre Tours et Saumur, sur une mission d'étude de la restauration scolaire, et de voir comment on pouvait introduire des produits locaux dans les restaurants scolaires.
Et ça, c'était intéressant.
C'était passionnant.
Ah oui.
C'était vraiment passionnant, parce que ça m'a permis d'étudier le fonctionnement de la restauration scolaire, et donc de voir quels étaient les différents acteurs qui comptent dans la prise de décision, parce qu'il ne s'agit pas d'amener des carottes aux portes des cantines. Il y a tout un travail à faire en amont, tout un travail sur l'analyse donc des coûts budgétaires, enfin du budget évidemment,
mais
aussi de l'équipement, du temps nécessaire, de la main-d'œuvre, du goût des enfants aussi, auquel penser.
Donc là, vous restez combien ?
6 mois.
Six mois.
Un stage de fin d'études. Suite à ça, je contacte plusieurs chercheurs en me disant peut-être je continuerai bien par faire une thèse sur justement l'impact des circuits courts alimentaires sur la souveraineté alimentaire. J'avais envie de raccrocher un peu avec l'économie du développement. Et en fait, tous les contacts de chercheurs que j'ai eus m'ont tous dit « Mais si vous voulez faire une thèse, déjà refaites un Master 2 en recherche. »
Ah oui.
Et puis, il va falloir trouver des financements, mais vous savez, c'est compliqué, etc. etc. Mais un des chercheurs m'a répondu « Ben nous, on ne finance pas de thèse. Par contre, on a un poste d'ingénieur d'études pour un projet de recherche qui est financé sur 3 ans, le projet. Le poste, lui, est financé sur 2 ans et il s'agira d'accompagner les chercheurs dans leurs travaux sur les circuits courts alimentaires en France. »
Oui, c'était bien ça.
Et voilà, et de traduire, enfin c'est moi qui utilise le mot de traduire, mais de valoriser ces résultats de recherche auprès des professionnels. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans.
Ça c'était déjà très bien.
Voilà, c'était passionnant, c'est mon premier poste, j'avais encore là de nouveau beaucoup d'autonomie. Des chercheuses, principalement des femmes qui étaient vraiment très motivées par le sujet et qui avaient en même temps une approche très différente de moi, l'approche militante ou associative que j'avais pu avoir. Donc là on était avec des chercheurs en marketing, en gestion, en géographie, enfin voilà, qui avaient des questionnements très pointus, qui pouvaient des fois me questionner sur mes propres motivations, mes engagements militants. Et en même temps, je leur apportais une connaissance du terrain qu'elles appréciaient.
Et oui, bien sûr.
Parce que j'avais pu accompagner des consommateurs en AMAP, des producteurs, des gestionnaires de collèges ou de cantines.
C'est-à-dire que vous connaissiez vraiment bien tout le milieu agricole, légumes, etc.
C'est ça. C'est ça. Et cuisinier.
Et cuisinier aussi, puisque vous aviez travaillé pour les enfants, dans les restaurants pour enfants.
C'est ça.
Et alors ?
Et alors, c'était une expérience fantastique, mais c'était un CDD de 2 ans. Ensuite, donc, j'ai postulé, j'étais recrutée au réseau des AMAP d'Île-de-France. Donc, je retrouvais le mouvement des AMAP. J'avais envie, après mon expérience dans la recherche, non pas de faire une thèse, bien au contraire, mais du coup, d'aller un peu plus dans le concret. Donc là, j'étais chargée d'animation du réseau des AMAP d'Île-de-France. Donc, je devais accompagner les consommateurs, les producteurs pour la création d'AMAP. Et puis, il y avait une dimension, parce que par rapport à l'expérience que j'avais eue en 2007 à Lyon, la situation et la réalité étaient complètement différentes. À Paris en 2011, Donc le mouvement avait connu une croissance exponentielle, le mouvement avait explosé, et du coup, il y avait aussi certains dévoiements, en fait, qu'on pouvait constater,
ça comme toujours.
Des gens qui récupèrent le terme, etc. Oui. Donc on s'est lancé, voilà, plus, enfin, le mouvement l'était déjà avant que moi j'arrive, hein, mais sur une recherche de comment on garantit l'éthique des AMAP sans rentrer dans un système, on n'y est pas, mais plutôt de démarche d'évolution et d'amélioration des pratiques. Et donc pour ça, la mise en réseau apparaissait comme le premier levier possible.
Oui.
Et donc je parcourais l'Île-de-France pour aller organiser des rencontres entre consommateurs en AMAP pour qu'ils échangent de comment les uns et les autres faisaient. Et quand des plus militants expliquaient comment ils fonctionnaient à d'autres qui étaient peut-être un peu plus seulement consommateurs, les autres ouvraient les yeux en disant « Ah, mais c'est vrai, on pourrait aller jusque-là, ce serait tellement bien. » Et donc petit à petit, les choses pouvaient évoluer ou pas. Mais voilà, ça après, moi, j'étais pas seule décisionnaire.
Et donc, vous allez arriver dans le Perche.
Voilà, j'arrive dans le Perche parce que je décide de quitter Paris, parce que le rythme n'était pas du tout adapté, enfin, me convenait pas. Et donc, je suis recrutée par le Parc Naturel Régional du Perche, donc je retrouve un autre PNR, sur l'installation d'agriculteurs en circuit court. Mais là encore, c'était une mission de 12 mois, donc avec une date de fin. Et donc, je sais au début de ma mission qu'il n'y aura pas de suite.
Voilà.
Donc, la mission était très intéressante par ailleurs. Hein.
Mais vous vous plaisez bien dans le Perche.
Voilà. Donc, je me plais. Je vois qu'il y a une dynamique de beaucoup de jeunes paysans, agriculteurs ou même artisans qui s'installent, qui portent des valeurs d'agriculture biologique et paysanne.
Ouais, tout ce avec que une... vous aimez.
Exactement. Avec une forte dimension humaine et sociale. Et je me dis, ben, et pourquoi moi, je ne créerais pas mon activité? Donc, ça ne s'est pas fait simplement. Je suis allée rencontrer d'autres cuisinières. Je ne me voyais pas m'installer en agriculture. J'y ai pensé. Et puis bon, la marche à franchir était trop grande pour moi, je ne m'en sentais pas capable. Je suis allée rencontrer d'autres cuisinières un peu partout en France aussi pour voir comment travailler.
C'est là que vous décidez de passer un CAP de cuisine.
C'est ça, c'est ça. En fait, moi j'avais besoin de mûrir mon projet, donc j'ai eu tout le temps de ma mission, donc où j'étais concentrée sur ma mission, mais sur mes temps libres, je commençais à creuser le sujet. Et le fait de prendre le temps de faire une formation, alors ça m'a déjà permis d'acquérir vraiment des compétences.
Et où vous faites ça?
Alors je l'ai fait à Granville,
oui.
Au groupe FIM. Donc FIM, c'est Fonds Interprofessionnel de la Manche. C'est un fonds de formation financé par la Chambre de Commerce et d'Industrie de la
Manche. Vous étiez combien d'élèves?
On était en entrée-sortie permanente, donc c'est un peu difficile à évaluer, mais on est entre 15 et 20
élèves. Et combien de temps pour passer votre CAP?
8 mois.
8
avec 5 stages de 3 semaines.
Et, vous choisissiez les stages?
Oui, tout à fait. Alors, moi, je venais les faire dans le Perche.
Oui.
Donc, au pied dans l'eau, à Saint-Langis-les-Mortagnes, du temps des anciens propriétaires. Ça a changé il y a 2 ans.
Oui.
J'ai travaillé aussi au restaurant du tribunal à Mortagne, au Perche, au Mont-Lijon, à la chapelle Mont-Lijon, à la Villa Folle-Avril, à Moutier, au Perche. Et puis, vu que je m'orientais quand même plus vers une activité traiteur, je suis allée voir Gauthier Traiteur aussi pour travailler un peu avec eux. Voilà, parce qu'il y a beaucoup à apprendre, même si c'est sur des structures beaucoup plus importantes que moi, ce que je peux faire en termes d'optimisation logistique.
Mais là, ça vous plaît?
Oui, ça me plaît. Alors, pas le rythme de restaurant, parce que c'est vraiment un rythme de vie très, très difficile. On a peu de temps pour soi ou pour faire autre chose.
Ouais,
moi, j'ai toujours été engagée dans des associations. Là, j'avais plus le temps de le faire parce que, voilà, on travaille de 8, 9 heures jusqu'à 15, 16 heures, 17 heures. Puis, on reprend à 18 ou 19 et on finit.
Donc, vous choisissez traiteur.
Voilà, traiteur. Mais vu que c'est pas que je suis frileuse, mais j'aime bien faire les choses progressivement, je voulais pas tout de suite investir dans un laboratoire ou louer une cuisine et m'engager sur des charges fixes. Donc je choisis de faire traiteur à domicile et donc de cuisiner chez les particuliers ou dans les cuisines qu'on met à ma disposition.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Thank you. Je suis toujours avec Fantine Olivier qui vient de nous raconter son parcours, puisque maintenant, elle est traiteur à domicile à Moutier-au-Perche. Alors, vraiment un itinéraire assez long, mais qui vous mène d'abord aux légumes, puisque ma première expérience a été de confondre des coquilles Saint-Jacques avec des navets et des carottes. Est-ce que vous avez encore beaucoup de choses comme ça qui peuvent surprendre les gens qui vont goûter à votre cuisine?
Oui, c'est vrai que le point fort de ma démarche et le point central, c'est de travailler avec les produits locaux. Et donc, c'est vrai que une manière de diversifier aussi ce que je propose, c'est de travailler avec plein de légumes différents. Parce que dans les légumes, qu'on trouve énormément de couleurs, énormément de saveurs différentes. Donc j'aime jouer avec, j'aime faire des brochettes de légumes rôtis aux épices, j'aime faire des veloutés, parce que les gens mangent de la soupe, mais de la soupe, c'est tout et c'est rien. Et de faire des potages de type minestrone. Là, pour cet hiver, j'ai préparé une recette, donc c'est de minestrone d'hiver. Donc,
alors c'est quoi ça? Faites-nous rêver.
Ben, c'est le principe de la minestrone, donc c'est une soupe italienne avec tous les morceaux de légumes que vous pouvez voir, toutes les couleurs, etc., un peu de pâte. Là, je reprends, mais j'adapte en utilisant les légumes d'hiver, donc carottes, céleri, potimarron, que je fais cuire bien sûr séparément et qui sont dans leur bouillon en fait, de cuisson avec des herbes aromatiques et puis fortement parfumées au céleri perpétuel, parce qu'on trouve plus de basilic à cette saison.
Alors, vous allez vous adapter à toutes les cuisines, puisque si je comprends bien, vous aimez bien aller chez les gens pour communiquer, parce que si j'ai bien compris, toutes vos études, c'était dans la communication quand même. Et, et avec ce fait-là, vous communiquez encore.
Oui, c'est ce à quoi j'aspire, en tout cas, d'avoir des temps d'échange privilégiés avec les gens. C'est vrai que pendant que les mains fonctionnent,
on peut parler.
Exactement, on peut parler aussi, et c'est important de pouvoir expliquer. Alors, les gens sont plus ou moins curieux, ils ont plus ou moins le temps, mais...
Alors, vous arrivez avec quoi? Avec vos casseroles?
Voilà, mes casseroles, le petit matériel, couteau, planche, etc. Les moules, s'il y a des gâteaux, des tartes, des plats de présentation nécessaires aussi.
Vous ne faites rien à l'avance?
Rien. Non, j'ai vraiment pas la place chez moi, j'ai pas le droit, et donc du coup, je travaille que dans les cuisines qui sont mises à ma disposition.
Donc tout va être fait dans la journée?
C'est ça. Alors si besoin, je peux venir la veille, notamment pour des gros repas où les gens souvent louent une salle des fêtes, par exemple.
Oui.
Je peux venir la veille ou je peux venir avec une aide en cuisine que j'embauche pour l'occasion.
Alors, vous nous avez parlé du minestrone. Faites-nous un petit déjeuner, là, ou un dîner.
Un dîner en entrée.
Voilà, je suis invitée et je suis très gourmande.
Moi, je vais reprendre les exemples des devis que j'ai fait ce matin avant de venir. C'est vrai que pour les entrées, j'aime bien ne pas trop charger les plats en produits carnés. Donc, je propose souvent des entrées végétariennes.
Exemple.
Avec un bavarois de potimarron au fromage frais de vache aux herbes aromatiques.
Oui.
Une tarte tatin de navet boule d'or avec une chantilly à la roquette.
Alors, expliquez-nous ça. Ça, j'adore
en fait,
ça. J'aime beaucoup la roquette. Alors.
J'aime beaucoup détourner un petit peu les recettes. Alors, sans des ambitions démesurées. Mais c'est vrai que la tarte tatin, on la connaît aux pommes. Mais en fait, c'est un processus de cuisson. Donc à partir du moment où vous trouvez un légume qui se tient et qui se maintient et qui peut cuire à l'étouffée comme les pommes, donc j'émince mes navets, je les fais cuire je fais ma pâte brisée que je peux éventuellement parfumer ou pas, et puis je parsème de morceaux de beurre, c'est bien relevé, ça.
Mais alors les navets, vous les faites cuire longtemps à l'avance?
Non, ils cuisent comme ça, ils cuisent sous la pâte en fait, comme une tarte tatin.
Quand on fait une tarte tatin, on fait cuire les pommes quand même avant.
Alors vous pouvez les caraméliser, mais vous les faites pas cuire en
fait. Oui, mais on les caramélise quand même.
Voilà.
Alors
là,
les navets, vous les caramélisez pas?
Non, ils sont confits dans le beurre en fait, dans le beurre et dans le sel. Je tiens pas forcément à faire que du salé sucré tout le temps. J'en fais récemment, j'ai fait un tagine de poulet aux fruits secs ou je peux faire aussi... un chocolatier m'avait demandé de faire un repas avec du chocolat, donc j'avais fait une recette mexicaine.
Parce que vous faites aussi... Parce que je pensais que vous étiez spécialiste des légumes, mais vous occupez aussi des desserts.
Des desserts, des plats principaux, oui, de tout un
de
repas,
tout, en
fait. Oui. Après, c'est vrai que c'est sur les légumes qu'on peut retenir ma cuisine parce qu'ils sont particulièrement mis en avant.
Voilà.
Même pendant les cocktails, les apéritifs, je vais aimer faire des petits sablés à la moutarde avec des crèmes de légumes de saison. Même sur mes devis, je ne dis pas quel légume ce sera parce que je ne peux
ça
pas forcément
dépend,
savoir,
oui.
Donc j'adapte. Et je m'arrange vraiment pour qu'il y ait à chaque fois des goûts bien différents, des textures et puis des couleurs surtout pour que ce soit agréable à l'œil.
Alors j'en reviens au chocolat parce que je suis très chocolat. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez au chocolat?
Au chocolat, donc vous avez cette recette mexicaine en fait qui s'appelle le poulet mollé, donc un poulet mijoté aux tomates, aux oignons avec différentes épices. Et ensuite, une fois que votre poulet est cuit, dans la sauce, vous pouvez ajouter du chocolat pour l'allier et l'épaissir en fait.
Ah oui, un petit peu comme quand on fait du gibier, du chevreuil et que l'on met un peu de chocolat dans la sauce et ça donne un arôme et une couleur aussi.
Ça, une texture aussi à la sauce. Donc oui. Là, j'aime bien le fait de pouvoir faire cette recette qui est certes exotique, mais qu'avec des produits locaux, bien sûr, sauf le chocolat qui vient de... Là, je travaille avec du chocolat de Sao Tomé. Voilà. Mais,
vous le faites venir ou...
Je travaille avec le chocolatier qui m'avait fait travailler. Lui me fournit, du coup.
Ouais, c'est
parce qu'on est sur des toute petite quantité. Hein.
Oui.
Quand j'ai fait le repas avec du chocolat dans tout le repas, même s'il y avait du chocolat à chaque plat, les gens n'ont mangé en tout et pour tout 45 grammes de chocolat sur l'ensemble du repas.
Alors,
en fait.
Tout un repas chocolat, racontez-nous comment ça peut être. Parce que...
J'avais repris le concept de la tarte tatin.
Je connaissais la mode avec les robes en chocolat, avec ce défilé de mode, mais je ne connaissais pas tout le menu. Alors racontez-nous. Commençait par quoi ?
Donc j'avais fait des dés de courge panés, enfin en chromeski en fait, enrobés de chocolat et puis panés et frits, qui se mangeaient
en chocolat. Enrobés de chocolat ?
Panés avec de la panure.
Oui,
et frits,
c'est-à-dire
ensuite.
Le pain un peu.
Oui, voilà, du pain, des miettes de pain. En fait, oui. Si vous voulez, de la chapelure. Ensuite, j'avais repris le principe de la tarte tatin en utilisant de la courge butternut et j'avais fait un appareil qui s'appelle le marquise, en fait, qui sert en pâtisserie, mais là, je l'avais fait moins sucré pour qu'il soit un peu amer et qu'il accompagne bien la tarte à la courge. J'avais fait donc le poulet mollet accompagné de riz safrané, de safran du Perche et de légumes.
Du safran du Perche, alors où trouve-t-on ce safran ?
Ah, vous avez plusieurs producteurs, moi je travaille avec notamment... quelqu'un qui est à Seton,
oui.
Vous en avez aussi à Belloux-sur-Vienne, à Dorso maintenant, etc.
Et comment s'en procure-t-on ?
Alors vous trouverez des producteurs de safran, comme tous les producteurs avec lesquels je travaille, sur le marché de Margon le vendredi soir,
sur
le marché de Nogent le samedi matin, ou le marché de Mortagne le samedi matin également.
Donc ils vendent le safran ?
Oui.
Qu'ils ont récolté eux-mêmes.
Voilà, oui, voilà.
Et est-ce qu'il a la même senteur.
Alors ils ont des saveurs différentes. Encore, le terroir va y faire, les processus de séchage, etc.
Oui. Alors après cela.
Après on était parti sur le fromage. Donc j'avais servi de la tome de brebis avec des copeaux de chocolat au lait, un lassi, donc qui est une recette indienne, lassi de chocolat aussi avec du chocolat du Vietnam, qui est un yaourt en fait retravaillé au chocolat. Et puis j'avais tenté une truffe aromatisée au camembert.
Ah,
parce que c'est vrai que le camembert et le chocolat, beaucoup de gens disent que ça se marie bien. J'avais fait quelques essais, bon là c'était vraiment une truffe, voilà, aromatisée au camembert. Il s'agissait pas non plus de croquer dans un morceau de camembert avec un carré de chocolat, parce que là à ce moment-là, c'est quand même assez particulier. Quoi.
Et le dessert ?
Le dessert, du coup, c'était le chocolatier qui organisait le salon qu'il avait fait.
Et c'était ?
Il avait fait un chou avec, lui aussi avait travaillé le safran avec une marmelade d'orange.
Ah, ça devait être très bon.
Oui.
Eh bien, écoutez, un grand merci. Je crois que vous nous avez mis plutôt l'eau à la bouche et que nous aurons envie de goûter vos légumes et vos desserts. Un grand merci à vous, Fantine. Je crois que c'est sous ce nom qu'on vous connaît dans le Perche. Merci beaucoup.
Merci.
Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez réécouter cette émission sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci.